Et on retrouve à présent l'interview accordée par Benjamin Netanyahu au New York Times. Alors là, on voit le journaliste qui arrive. Bonjour. Nous allons avoir une conversation maintenant avec celui qui est aujourd'hui le plus ancien Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, qui va nous rejoindre dans un moment. Et il a été réélu en 2022. Et depuis, il a passé avec sa nation les jours les plus noirs de son histoire avec le 7 octobre. Et après l'une des pires guerres qui a amené la destruction des protestations dans le monde entier, aujourd'hui, Israël est au croisement des chemins. Et il est face à ses ennemis et finalement il est condamné par tellement de pays à travers le monde. Alors que va faire Israël de sa victoire? S'il vous plaît, welcome, Monsieur le Premier ministre Netanyahu. Monsieur le Premier ministre. Merci tellement, tellement d'être venu nous voir. Je voudrais commencer la conversation, si je puis me permettre. Il y a deux semaines, il y a eu la décision de l'ONU qui a adopté le plan de président Trump et le Hamas l'a rejeté pour la bande de Gaza. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous accuse de briser le cessez-le-feu. Si on voudrait comprendre, est-ce qu'il y a une opportunité pour une paix? Et si oui, comment? Je pense qu'il y a, oui. Je pense que depuis qu'on a cassé l'axe d'Iran, ça a ouvert de très nombreuses possibilités. Mais il y a encore des choses à faire. Le plus important à propos de Gaza, c'est que puisque la première phase du plan a été maintenant achevée, moi, je crois, le président Trump croit qu'un effort combiné entre la force militaire et la diplomatie va forcer le Hamas à nous amener tous nos otages. Il en reste encore deux, mais la plupart des otages sont dehors. Et on les a eus parce qu'on est allé jusqu'au dernier refuge de Hamas dans la ville de Gaza. Ils ne pensaient pas qu'on le ferait. Et en même temps, le président Trump a mis sur pied une coalition islamique et arabe très forte. Et ces deux pressions ont amené le Hamas à nous donner tous les otages. Alors maintenant, on a la deuxième phase. C'est la phase de désarmer le Hamas et de démilitariser Gaza. Ces deux phases, après il faut aussi déradicaliser, c'est la troisième phase, des enfants de 6 ans qui sont... qui ont le cerveau navé, on leur lave le cerveau. Mais d'abord, il faut se débarrasser du Hamas. Et ça, ça va avoir lieu de deux manières différentes. Ça peut arriver avec une force internationale que les États-Unis essayent de mettre sur pied, j'espère qu'ils vont réussir. Et sinon, comme l'a dit le président Trump, comme je dis, ça peut être fait avec la façon facile et ça peut être fait avec la façon difficile, mais si on doit le faire, on fera le difficile. Parce que je ne veux plus qu'il y ait encore du sang et encore du sang pour les Israéliens. Mais ça doit être fait. Le Hamas ne peut pas rester là-bas et il ne restera pas. Vous avez parlé au président Trump au téléphone cette semaine. Il vous a parlé, je crois, à propos de ce qui se passe en Syrie, mais j'ai compris aussi qu'il y avait une discussion à propos de son sujet, s'il veut plus de sujets de sa part. Pour un partenariat avec vous, pour une amnistie pour vous. Ah, vous croyez que je vais vous dire ce que m'a dit le président? Non, je n'ai pas l'intention de faire ça. Mais oui, je peux vous dire sa position. Le président Trump l'a dit à plusieurs reprises. Il pense que c'est... ça fait 10 ans que ce procès continue avec des enquêtes et 4 ans qui est incroyable. Et j'ai été mis en procès. Vous voulez rester assis à votre place? Alors je vais vous dire quelque chose. Quelle est la raison pour laquelle on me poursuit comme ça? Pas parce que j'ai reçu du cash, pas parce que j'ai eu des rémunérations matérielles. On suppose que j'ai demandé une couverture positive dans leurs journaux pour qu'ils parlent bien de moi. Et le pire, c'est que cette couverture était négative. Et quand on le voit et on le montre... Alors vous imaginez, il y a 2 ans, les juges ont vu ça, ils ont dit... Arrêtez les charges, c'est pas possible. Et ils ne l'ont pas fait. Alors ce procès continue parce qu'ils ne veulent pas la justice. Ils veulent ma démission. Alors, il y a déjà deux charges qui ont été abandonnées. J'ai reçu une poupée de Bugs Bunny. Non, mais ne riez pas. Mon fils a reçu une poupée de Bugs Bunny. Et moi, j'ai reçu des cigares et du champagne. Des boîtes de champagne. Voilà de quoi on parle.
Vous étiez à ce procès aujourd'hui.
Mais vous êtes, vous étiez aujourd'hui au tribunal d'ailleurs. Oui, oui, je suis supposé y aller 8 heures par semaine. Ça veut dire 3 fois par semaine. Il se trouve que j'ai 2-3 petites autres choses à faire. On a des opportunités pour la paix. On a des opportunités énormes. On a aussi des choses importantes à faire pour l'intelligence, pour l'IA, et on ne me laisse pas travailler. Des décisions qui vont changer tout le futur pour le monde entier, c'est comme ça. J'ai pensé que dans notre système, quand vous demandez une amnistie, vous n'avez pas besoin d'être défini comme coupable. Vous pouvez le demander avant. Et j'ai demandé, je ne vais pas encore passer 2 ans ou 3 ans dans ce truc qui n'a pas de sens. Ça devient une blague. C'est une blague. Mais vous savez que les humoristes font des blagues à ce sujet, parce que c'est tellement stupide. Alors, moi, j'étais un champion dans mon école. Mais c'est absurde. Vous pensez que vous allez être amnisté? Vous avez parlé au président Herzog. Vous avez fait une demande. Oui, j'ai fait. Je ne sais pas. Ça tient à lui. Mais j'espère qu'il va le faire, parce que je pense que c'est bien pour le pays, et c'est bien pour notre futur, on a beaucoup de choses à faire. C'est beaucoup plus facile à faire quand vous n'êtes pas obligé de passer 8 heures par semaine, 3 fois par semaine, et ça peut durer 8 heures par jour. Le président Trump a dit que l'Arabie Saoudite pourrait être membre des accords d'Abraham, mais il faut deux États. Mais vous, vous dites qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Il y avait un État palestinien qui s'appelle Gaza. C'était en fait, de fait, c'était un État. Et qu'est-ce qu'on a reçu en retour? C'est le plus formidable massacre de juifs depuis l'Holocauste. Alors, aujourd'hui, si vous regardez un spectre énorme d'Israéliens de gauche à la droite, on a 120 députés, il y a 99 députés sur 120 qui ont voté contre l'État palestinien. Ah, ça vous dit quelque chose quand même. Alors les gens disent, il doit y avoir une solution avec les Palestiniens, mais c'est pas... Mais ils ne reconnaissent pas l'État palestinien. Ils disent qu'ils vont recommencer encore et encore ce massacre. Ils endoctrinent leurs enfants dans leur livre d'école. Les enfants, ils leur demandent de devenir des bombes humaines et ils paient pour le meurtre de juifs. Plus tu tues de juifs, plus tu es payé. Toute cette histoire va nous amener où? Pas à la paix. Et donc je pense que ça doit commencer à Gaza. On va déjà se débarrasser du Hamas. Mais après, vous savez, les gens ne croyaient pas qu'on aurait la paix avec 4 pays arabes dans les accords d'Abraham. Et je l'ai fait. Je l'ai discuté en secret avec le président Trump. Et je voyais tout ce qui était dit publiquement, mais c'était, tout le monde disait, ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Mais on l'a fait. On a fait de gros efforts pour arriver vers cette paix. C'est une paix qui est basée sur la sécurité. Mais je pense qu'on peut faire des choses merveilleuses. On peut avoir des accords de paix pas seulement avec un pays, un seul pays, mais avec beaucoup de pays, y compris des pays islamiques, qui sont loin, qui ne sont pas dans la région. On peut même... une fois que je serai sorti de cette absurdité, est-ce que l'autorité palestinienne, que vous l'aimiez ou pas, est aujourd'hui le représentant légitime des Palestiniens? Et vous, d'ailleurs, vous coopérez avec eux en Cisjordanie sur la sécurité. Alors pourquoi vous ne coopérez pas avec eux sur une administration civile à Gaza? Je pense que l'autorité palestinienne était à Gaza. On a déjà essayé ça. Et ils ont été mis dehors. Ils sont très corrompus. Ils n'ont jamais d'élections. Vous savez, moi, j'ai des élections. Hein. Tout, des 3-4 ans. Et je suis heureux de les gagner. Mais ce n'est pas ce qui se passe chez eux. Et que ce soit en Judée-Samarie, en Cisjordanie. Les Palestiniens demandent des élections. Mais il y a cette structure qui est pétrifiante. Bien que j'ai beaucoup de gens qui me disent de les mettre dehors, mais on demande des réformes, des vraies réformes. Ils ne peuvent pas garder leurs enfants éduqués à être des bombes humaines. Ils ne peuvent pas payer pour le meurtre. Ils ne peuvent pas payer des terroristes pour tuer plus de juifs. Ils ne peuvent pas continuer à se construire sur l'idée de massacres de juifs. Et vous regardez leurs écoles, on porte le nom de meurtres massifs de juifs. Tuez-les, faites-le délibérément. Regardez, nous on a quelqu'un qui a tué délibérément des Palestiniens, mais moi j'ai condamné. Je l'ai condamné, mais eux c'est pas ce qu'ils font, eux ils disent c'est génial. Ça c'est pas des partenaires pour la paix. Mais il y a une autre possibilité. Mais je pense que si les Palestiniens veulent vraiment l'avenir, de dépasser, de tech le contrôle de Gaza. Mais vous savez, mais aujourd'hui déjà, il y a des Palestiniens à Gaza qui se battent contre le Hamas. Parce qu'ils disent, ça suffit. Ça suffit de cette tyrannie. Et ces gens ne veulent pas de l'autorité palestinienne et ils ne veulent pas du Hamas, ni l'un ni l'autre. Ils veulent prendre en main leur destinée et on doit leur laisser une chance. J'ai une question sur votre réputation. À propos de vous, à propos du peuple juif et à propos d'Israël. Et moi, je suis un juif américain. Il y a des dizaines de milliers de Palestiniens, vous le savez très bien, ont été tués durant ces deux dernières années. Vous avez un ordre d'arrestation qui a été émis par la Cour internationale de justice. Ici, où j'habite, à New York, le maire Zoran Dormani a dit que si vous venez à New York, vous seriez arrêté. Il vous arrête. C'est ça ma question. Vous avez accompli tellement d'un point de vue militaire, avec des succès que je crois, y compris pour vous et possiblement pour le Proche-Orient. Mais dans ce processus, vous avez perdu tellement, vous avez perdu la confiance du monde. Et comment vous allez revenir de ça? Alors, d'abord la victoire d'Israël, c'est la victoire de ces soldats qui sont courageux, nos fils et nos filles. Nous sommes allés sur le champ de bataille pour nous battre. Nous avons détruit les capacités nucléaires iraniennes. Quand l'Iran parle de mort, il dit mort à Israël, mais pour la mort de l'Amérique. Nous, on n'est qu'une étape. Ils ont des missiles à longue portée qui peuvent cibler n'importe quelle ville américaine. Alors, croyez-moi, c'est des barbares. Ils m'accusent, mais c'est des barbares. Alors, concernant la personne qui m'a accusé de crime de guerre, le procureur Khan. Moi, je crois qu'aucune armée au monde a essayé de faire autant que nous pour essayer d'éloigner la population des champs de bataille. Et le Hamas fait tout pour ramener la population dans les champs de bataille. Et alors, on a des blessés, mais à l'évidence, cette propagande est plus dure. Cette guerre de propagande est beaucoup plus dure à mener que la guerre sur le champ de bataille. Alors, concernant les crimes de guerre, le gars m'accuse de crimes de guerre. Harim Khan, il devait venir en Israël et on devait discuter avec lui et montrer nos arguments et pour détruire toutes ces fake news nous concernant. Et la veille, deux jours avant de venir, on ne comprenait pas pourquoi, il a totalement annulé le rendez-vous, il n'est pas venu. Il se trouve que quelques jours plus tôt, une membre de son équipe l'a accusé d'agression sexuelle. Sachez qu'elle était autant anti-Israël que lui. Elle vient d'un pays qui vraiment nous déteste. Elle nous aime pas. Et lui, il a pensé que le moyen de s'en sortir, c'était de faire du bashing contre Israël. Toute cette histoire de crimes de guerre. Alors maintenant, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est comment on peut bâcher Israël de manière aussi facile. Enfin, quand même, regardez, le Hamas vient dans notre pays, tue, meurtre, fait des meurtres, viole des femmes et prend des otages. Et il se pose des choses que je ne peux même pas décrire. Et il se trouve que c'est Israël qui est blâmé pour faire la guerre en retour. Et, manière, et une guerre qui est tellement difficile à faire que je ne suis pas sûr que d'autres armées aient été confrontées à ça. Nous, on n'est pas Churchill, on ne fait pas des tapis de bombes. Et on a nos soldats qui meurent quand ils essayent de rentrer pour nettoyer certains quartiers où, où sont cachés les gens du Hamas. C'est ça la question. Je ne parle pas si, vous avez, si c'est bien ou mal ce que vous avez fait, mais le maire de cette ville, par exemple, s'est posé la question si on devait vraiment avoir un État d'Israël, si Israël devait exister. Et moi je sais aussi, et donc je ne vous demande pas ce qui s'est passé dans les deux ans. C'est pas le problème. Ce que je dis, c'est comment vous allez restaurer la confiance, si vous pouvez, entre Israël, avec Israël et avec vous-même. Mon père était un grand historien. Il était spécialiste de l'Espagne et de l'Inquisition. Mais basiquement, il disait, vous pouvez vérifier ça facilement dans ses livres, que l'antisémitisme nous a accompagnés pendant 7 millénaires. Et c'est le destin du peuple juif. Au Moyen-Âge, on a été accusé d'égorger les bébés, les chrétiens, parce qu'on voulait leur sang pour faire des matzot pour Pâques. On devait empoisonner, paraît-il, les puits. Et ça, ça a toujours amené à la violence. Toujours. Des massacres, des pogroms. Et que ça a amené au plus grand des massacres qui est l'Holocauste. La différence aujourd'hui, ce n'est pas la disparition de l'antisémitisme, parce que les mêmes mensonges qu'il y avait contre nous, maintenant on les a contre l'État juif. Après l'Holocauste, on a eu une petite période d'accalmie, mais c'était juste une pause. Mais les choses n'ont pas changé. Et maintenant qu'on se défend contre ceux qui veulent nous détruire, on se défend sur la bataille, sur le champ de bataille, avec beaucoup de courage, avec un courage incroyable, et même un certain niveau. Mais dans le même temps, on reconnaît, moi je reconnais, vous reconnaissez que sur l'autre bataille, la bataille de la propagande, on est attaqué par des bots, par des robots sur Internet. À propos, je vais vous dire une chose, ce matériel informatique, il a été créé en Israël. Et on lave le cerveau des gens. Alors oui, on a un problème là-bas. On perd tout sur cette bataille-là. Et on doit s'y battre. Alors, le moyen, l'un des moyens pour dissiper ça, c'est ce que j'essaye de faire ce soir. Alors, mais nous, on voulait vous interviewer à New York. Ah oui, vous avez raison, je n'ai pas répondu à votre question. Je viendrai à New York. C'était ça ma question. Quand vous allez venir à New York? Et le maire a dit qu'il va vous arrêter. Oui, bien sûr, je viendrai nous.
And you will test that?
Vous allez le tester et que vous allez voir si ça marche. Mais pourquoi vous attendez pas et pour voir? Je vous dis que je viendrai nous.
Would you want to talk to him, by the way?
Mais si, et vous voulez lui parler?
Well, you know, if he changes his mind and says
s'il a changé d'avis et qu'il pense qu'on a le droit d'exister, oui, on peut se parler.
While I have you, let me ask you a separate question. Steve Witkoff, a Jared Kushner, who you worked with and were instrumental in this. Middle East peace resolution. They are in Moscow,
Laissons un petit peu les résolutions de paix pour le Proche-Orient, mais ceux qui les ont négociés sont maintenant à Moscou pour négocier la paix avec l'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez? Et comment vous pensez que cette discussion doit se finir? Ça vous pose la question de votre relation à vous avec Poutine, avec Zelensky, avec la Russie. Alors j'espère que ça va se terminer rapidement et que ça va se terminer avec la paix. C'est pas facile. Je pense que celui qui a une chance de le faire, c'est le président Trump. Parce qu'il a montré des capacités considérables de faire bouger les désaccords
et
dans de nombreux endroits, même avec moi. Et il a amené la paix, alors il peut l'amener là-bas aussi. Et mais est-ce que vous pensez comment de ce plan, le fait que certaines personnes pensent que les États-Unis en fait aident la Russie et contre l'Ukraine? Je pense que c'est trop tôt pour dire, honnêtement. Il y a des négociations. Vous savez, on va d'un côté, après on entend de l'autre côté. Après. Et c'est des allers-retours, je ne sais pas. Vous savez, j'ai assez de travail ici, avec mes voisins. Et j'espère que j'aurai d'autres traités de paix avec mes voisins. Parce qu'on s'est battu tellement dur. Et le peuple juif a prié pour la paix. Vous savez, quand on se dit bonjour, on se dit shalom, ça veut dire la paix. On a un espoir. Tikva, notre hymne national, c'est tikva, c'est espoir. Et dans ce voisinage, je peux vous dire quelque chose. C'est pas comme dans toutes les régions du monde. Si vous voulez, c'est la paix à travers la force. C'est dur à prononcer, mais c'est très facile à comprendre. Si vous êtes faible, personne ne fera la paix avec un faible. On fait la paix avec le fort. Israël est un pays fort. Et pourtant, on n'est que 10 millions. Vous savez, vous avez vu notre pays, il n'est pas grand. Mais on a un talent gigantesque, une innovation gigantesque. Même si on a des discussions politiques, vous pouvez imaginer, c'est la démocratie. Mais au moment où, du test, ou au moment du défi, les gens pensaient qu'on ne ferait pas. Le Hamas a été aidé par le Hezbollah dans le nord. Au deuxième jour de la guerre, j'ai dit quelque chose aux maires des villes qui avaient été attaquées par les terroristes. J'aurais dit, on va changer la face du Proche-Orient. On va gagner cette guerre. Parce que c'était clair pour moi qu'on n'allait pas se battre uniquement contre le Hamas, mais aussi le Hezbollah, le régime d'Assad, les milices en Irak, les Houthis, l'Iran. Et on l'a fait. On a fait ces guerres. Et on a gagné ces guerres. Vous savez, si vous avez le cancer et que vous le sortez, il peut revenir. Mais si vous ne le sortez pas, vous mourrez. Alors on l'a sorti. On a sorti cette menace d'une attaque nucléaire. Mais l'Iran pouvait arriver à la bombe en un an, peut-être même 6 mois. Et où ils en sont aujourd'hui, les Iraniens, d'après vous? Où ils en sont? Je pense qu'on les a fait beaucoup reculer. Non, mais où ils sont? Je pense que c'est très dur de fabriquer une bombe quand la plupart de vos scientifiques ont été tués. Et nous, je ne vais pas faire trop de commentaires, mais on les a ramenés loin en arrière. Ils vont réessayer. Mais maintenant, on a cassé l'axe iranien, c'est sur ça qu'on s'est concentré. Le Hamas, on est en train de finir ici, à Gaza. Et on veut un autre futur, le Hezbollah aussi, et on espère qu'on va pouvoir changer nos rapports avec le Liban, pour créer des horizons avec d'autres pays. Nous nous battons contre le Hezbollah et nous sommes en face des Houthis. Mais les opportunités sont vastes, elles sont vastes. Vous
êtes 76 ans maintenant.
Monsieur le Premier ministre, vous avez 76 ans aujourd'hui. Combien de temps encore vous voulez rester dans la vie publique? Je ne mesure pas en termes de temps, je mesure en termes de tâches, de missions. Et vous savez, j'ai le soutien de la population dans mon pays, vous n'écrivez jamais sur ça. Mais vous savez, les gens me disent « Oh, mais Bibi, tu es un roi !» Mais je dis « Mais il faut que je sois élu pour ça !» Et j'ai un grand soutien. J'ai eu la chance d'avoir ma femme, mes deux garçons. Mais le peuple me soutient. Ce qu'ils veulent que je complète, c'est la recherche de la paix. Ils comprennent que j'ai libéré l'économie israélienne d'une sorte de socialisme vers le marché libre et l'innovation et la technologie de manière incroyable. Mais tout ce qu'on a fait, c'est seulement dans un pays de libre marché. Ça ne peut marcher que dans cette économie-là.
And today it's a it's going to cross $60,000 per capita.
On a comment, quand je suis arrivé moi ministre des Finances, c'était 17 dollars per capita et maintenant on va vers les 600 per capita. C'est une révolution que j'ai introduite ici qui est l'intervention du libre marché. Et je vois d'autres révolutions qui arrivent. D'ailleurs, elles sont déjà là les révolutions. Dans toutes ces technologies merveilleuses, il y en a, vous savez, qu'elles sont très effrayantes. Et moi, j'ai parlé avec les responsables de l'IA à travers le monde, et ça peut être une bénédiction et ça peut être une malédiction. Et pour le mettre du côté de la bénédiction, pour le monde, la première révolution, et la deuxième révolution, c'est d'amener la paix. Et c'est des tâches énormes, des défis que je dois prendre sur moi. Et quand on les aura, vous savez, il ne faut pas se mettre de côté, il faut se mettre devant. Monsieur le Premier ministre, nous allons arrêter cette conversation. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup pour cette conversation. C'était agréable de vous voir. Merci, Premier ministre. Voilà, c'était l'intégralité de l'interview accordée par Benjamin Netanyahu au New York Times. Benjamin Netanyahu est en visioconférence, il est à Jérusalem, et le journaliste du New York Times est lui à New York devant un public. Et voilà, je crois que, avec le professionnalisme évident du New York Times, même s'il est tout à fait défavorable à Benjamin Netanyahu, on a pu balayer absolument tous les sujets importants concernant Israël et le Proche-Orient.